Les hommes aux semelles devant. Une émission d'Odémilie Judaïque. Aujourd'hui, les pirates somaliens. Mercredi 13 avril 2016, à la cour d'assises de Paris. Dans le box des accusés, 7 jeunes Somaliens sont condamnés à des peines allant jusqu'à 15 ans de prison pour actes de piraterie. Depuis le début du XXIe siècle, cette pratique d'un autre âge a refait surface, spécialement à l'extrémité de la Corne de l'Afrique, au carrefour de deux autoroutes maritimes où croisent chaque année 25 000 bateaux. En latin, le mot pirate désigne celui qui tente la fortune, qui est entreprenant. Alors en Somalie, véritable zone de non-droit où la guerre civile dure depuis 1991 et où les sécheresses et les famines sont récurrentes, tous les coups sont permis. Au large du golfe d'Aden, on rencontre donc deux sortes de flibustiers. Des jeunes Somaliens prêts à tout pour échapper à la misère, qui décident d'attaquer des bateaux de pêche, de commerce et même de plaisance. Mais aussi des armateurs venus des pays développés, qui pratiquent une surpêche illégale dans les eaux territoriales somaliennes et contaminent les côtes en y déversant les déchets toxiques de nos usines. En compagnie du géographe Marc Lavergne, sortons le drapeau noir de la flibuste en Somalie.
Je suis devenu pirate par hasard. Les horreurs de la guerre civile et les luttes de clans qui ravageaient la Somalie m'avaient chassé de Mogadiscio. Un matin que je rentrais d'un voyage d'affaires d'une semaine en Éthiopie, je fus surpris par la fumée qui s'élevait au-dessus de mon quartier. En arrivant dans ma rue, devant ma maison, je ne trouvais qu'un champ de ruines. Le feu couvait encore ici et là. Ma famille était anéantie. De mon père, ma mère et ma femme enceinte, ne restait que des cendres. J'errais plusieurs jours en ville, désemparé. Je réalisais l'horreur de la situation, la mienne et celle de la Somalie.
La Somalie est un pays, d'abord, qui a des côtes extrêmement longues, hein, près de 1500 km si on compte l'ensemble de la Somalie historique, des côtes qui regardent l'océan Indien et qui regardent le golfe d'Aden au nord. Donc la Somalie est proche d'une voie de passage qui est tout à fait importante. Depuis l'ouverture du canal de Suez en 1869, eh bien, le commerce maritime entre l'Asie et l'Europe passe au large des côtes du nord de la Somalie. Et puis, il y a des bateaux qui sont trop gros pour passer par le canal de Suez, et ceux-là contournent l'Afrique. Hein, ce sont en particulier les porte-containers ou bien les super-tankers de 500 000 barils, etc., qui ne peuvent pas passer malgré les agrandissements du canal de Suez par cette voie-là. Donc la Somalie regarde sur ces deux grandes routes maritimes qui relient l'Extrême-Orient, l'Asie, l'Inde aussi, et puis l'Europe et, de façon secondaire, l'Amérique. Alors la Somalie déjà n'est pas un pays riche puisque c'est un désert. C'est un désert qui est peuplé de nomades qui élèvent des chameaux, qui élèvent des moutons, avec le long de quelques rares rivières, il y a aussi des plantations. Et puis sur la côte, il y a de la pêche. Il y a des villages de pêcheurs et une activité très ancienne aussi de commerce le long de la côte de l'océan Indien, de la côte africaine, qui permettait aux marchands de la région, mais aussi aux marchands d'autres pays, d'aller de port en port pour acheter les produits qui venaient de l'intérieur. On vendait de l'ivoire, des zèbres, des girafes, du miel, des plumes, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis à une autre époque, des esclaves, bien sûr. Et ça allait depuis le Yémen, depuis le nord, en face de la Somalie, jusqu'aux Comores, jusqu'au sud de l'océan Indien, à Madagascar, au Mozambique, etc. Donc les Somaliens ont d'une part une capacité, de façon historique, une connaissance de la mer. Ils étaient pêcheurs pour les communautés qui sont le long des rives parce qu'il y a une richesse piscicole extrêmement importante qui permettait aux communautés locales de vivre, de se nourrir, d'échanger du poisson séché avec les communautés de l'intérieur, et puis aussi qui attire aujourd'hui les convoitises d'autres marines de pêche, le Japon, la Corée, la Norvège, mais aussi, pour ce qui concerne notre région de Somalie, l'Iran, essayent de venir dans ces eaux de manière parfois illégale, de piller les richesses halieutiques au détriment des pêcheurs locaux qui n'ont que des petites barques, des petits bateaux, de petits moteurs. Et finalement, il y a une situation de guerre, de trouble qui fait que toutes ces marines ont pu venir piller les ressources des côtes somaliennes. La jeunesse, finalement, s'est révoltée un peu contre ses aînés et aussi contre les chefs de clan. Et c'est comme ça qu'on trouve le mouvement des Chebas dont on parle beaucoup. Donc les jeunes Somaliens ont trouvé des ressources dans le pillage d'abord des Somaliens, des sociétés somaliennes, dans une volonté de prendre le pouvoir avec une idéologie, dit-on, islamiste, un rattachement à Al-Qaïda, etc.
Leur nom signifie « jeunesse ». Ils sont issus de la branche la plus dure de l'Union des tribunaux islamiques actifs créée en 2006 en Somalie et qui milite pour l'instauration de la charia. Placés sur la liste officielle des organisations terroristes par de nombreux pays, ils contrôlent à partir de 2008 une large partie du pays.
Mes amis se déchiraient, les clans se montaient les uns contre les autres, des factions se constituaient. Les voyous et les bandits paradaient en brandissant des armes. Notre malheureux pays perdait la tête. Beaucoup comme moi ont fui l'enfer de Mogadiscio en suivant la route de Bosaso, qui assurait tout le trafic vers le grand port du nord du pays. Plus d'une fois, je dus jouer des coudes pour garder ma place, cramponné sur le toit d'un bus ou suspendu à la ridelle d'un camion. En arrivant au village de pêcheurs de Gahar Akkad, je vis des barques sur l'océan et les filets qui séchaient au soleil sur des piquets plantés dans le sable. La brise de la mer rafraîchissait l'atmosphère. On entendait le bruit des vagues qui se brisaient sur la grève. Progressivement, je me fis des amis parmi les pêcheurs de ma génération. Ils m'emmenaient en mer dans leurs pirogues et m'initiaient à la pêche. Je partageais leur vie simple et rude.
La Somalie est un pays qui a été colonisé pour partie par l'Italie, pour partie par la Grande-Bretagne. C'était un pays qui n'offrait pas beaucoup de ressources, qui n'intéressait pas beaucoup les puissances coloniales. Alors, l'indépendance a été donnée à la Somalie de façon tout à fait pacifique en 1960. Se sont ensuivies une trentaine d'années, à la fois d'un développement économique mesuré, mais aussi de confrontation avec les pays voisins. Alors il faut comprendre que la Somalie, c'est le seul État africain, et peut-être l'un des seuls États au monde qui est mono-ethnique. Il n'y a qu'un seul peuple, si l'on excepte certaines minorités bantoues. C'était un pays qui était donné en exemple par des gens qui n'avaient pas de mémoire historique vraiment très forte, en se disant « c'est un pays qui n'aura pas de problème parce qu'il est homogène ». Eh bien, c'est tout le contraire qui s'est passé, puisque la société somalienne est structurée en clans, en sous-clans, qui passent leur temps à se faire la guerre pour les richesses, comme tous les nomades. Et donc ça, on trouve ça partout dans le monde. Il y a une activité guerrière qui va de pair avec la survie de l'espèce. Et là, qu'on parle la même langue, qu'on ait la même religion, qu'on ait les mêmes coutumes, ça ne change absolument rien. C'est des facteurs de désunion et d'instabilité permanente. Cela dit, le problème de pas avoir d'État, c'est que les sociétés ou les compagnies de pêche étrangères n'ont pas su à qui s'adresser pour obtenir des droits de pêche. Donc, elles se sont livrées à une surenchère de pillage de toutes les ressources du pays.
Peu à peu, la situation au village s'est dégradée. Les commerçants donnaient moins d'essence et de vivres en échange du poisson et des coquillages. Avec la guerre partout dans le pays, disait-il, l'approvisionnement devenait difficile. À la même époque, les bateaux yéménites commencèrent à se rapprocher des côtes et à faire des incursions dans les zones traditionnelles de pêche. Ils venaient sans vergogne voler le fruit de notre travail devant chez nous, à quelques centaines de mètres du village. Après les Yéménites, on vit des Chinois, des Taïwanais, des Coréens, des Japonais. À croire que tous les pêcheurs d'Asie et du Moyen-Orient se donnaient rendez-vous pour écumer nos rivages.
La rançon du fait de ne pas avoir d'État durant ces 30 ces années de guerre, hein, à la suite de la chute de Siad Barré et jusqu'à aujourd'hui, c'est que d'autres sociétés ont voulu en profiter. On a en particulier des déchets toxiques qui sont le produit de l'industrie chimique européenne et dont on ne sait pas quoi faire. Et en particulier les boues rouges qui sont les résidus de l'industrie chimique la plus polluante, la plus toxique. On ne sait pas quoi en faire. Il y a des sociétés qui vont voir les grands groupes pétrochimiques, par exemple, en leur disant, bah, écoutez, vous nous payez et on va se débrouiller pour les faire disparaître. Et c'est comme ça que les côtes somaliennes ont été polluées et que les poissons ont disparu en grande partie. Alors d'un côté, les pêcheurs se trouvaient avec des poissons soit pollués, soit qui étaient en voie de disparition, et d'un autre côté, des gros navires-usines qui venaient rafler le thon et tous ces produits de la mer. Donc ils se sont trouvés complètement dépourvus et sans aucun recours, dans la mesure où il n'y avait pas d'État derrière eux, donc pas de possibilité non plus de passer à d'autres activités terrestres. Hein. On aurait pu imaginer que on fasse de l'agriculture, je ne sais pas, on aurait pu imaginer d'autres ressources, ou bien de l'immigration même. Et les Somaliens émigrent beaucoup de ces régions déshéritées. Ils vont dans le Golfe, ils vont en Arabie, ils vont dans les Émirats Arabes Unis, au Yémen. Et puis, il y a une diaspora somalienne d'hommes d'affaires qui s'est répartie dans le monde entier. Les Somaliens étant une société qui n'a pas l'habitude d'avoir un État coercitif et unificateur, vit très bien comme ça. C'est-à-dire que les Somaliens sont des gens qui se débrouillent, qui trouvent des solutions à leurs problèmes.
Le pire restait à venir. On commença bientôt à voir des poissons morts s'échouer tout au long de la côte. Il en arrivait des quantités, des bancs entiers poussés par les vagues, ventre à l'air. Les oiseaux de mer, attirés par ce festin inhabituel, virevoltaient à basse altitude et plongeaient pour se repaître. Mais bientôt, leurs cadavres aussi jonchèrent les plages. Quelques jours plus tard, des fûts métalliques firent aussi leur apparition. Les enfants vinrent par dizaines jouer autour. Ils grimpaient dessus, puis plongeaient dans de grands éclats de rire. Sur la ferraille rouillée, on distinguait des traces de couleur rouge, avec des inscriptions incompréhensibles dessus. Puis d'étranges maladies commencèrent à apparaître. Maux de tête, saignements, difficultés respiratoires, douleurs musculaires. Plusieurs gosses furent pris de convulsions et moururent dans des souffrances horribles. Des étrangers vinrent inspecter les fûts et prélever des échantillons. Ils nous apprirent que depuis des années, des déchets industriels, de l'uranium, du mercure et d'autres métaux lourds, étaient déversés sur nos rivages par conteneurs entiers. La rage monta rapidement dans le village et soudain tout a basculé. Ils abordaient les bateaux, confisquaient les engins de pêche, s'appropriaient les cargaisons et réclamaient des rançons pour libérer les navires. Les esprits changeaient. Les hommes s'adaptaient à leur manière. Les étrangers s'étaient servis de notre pays, à nous maintenant de nous servir. Alors moi aussi, je basculais.
La piraterie est arrivée en Somalie à la fin des années 90, je dirais en 1998, au même moment que certains territoires prennent leur autonomie, en particulier le Puntland, qui a des ports de pêche actifs. Et c'est là que les pêcheurs avaient le plus souffert de ces prédations internationales et de cette pollution marine. Donc, ils se sont équipés d'abord avec leurs petits canots à moteur en attaquant les bateaux. Puis, de fil en aiguille, ils se sont enhardis dans la mesure où il n'y avait aucune rétorsion de la part de la communauté internationale, de la part des autorités locales. Donc on a des petits ports qui sont devenus mondialement célèbres parce qu'ils sont devenus des baies où on rangeait les uns à côté des autres des cargos, des tankers, des porte-containers. Et puis, il y avait des prisons pour retenir les équipages en otage jusqu'à ce que les rançons soient payées. Tout ça se faisait d'une manière, je dirais, assez bon enfant, parce que ce n'était pas l'intérêt des pirates de tuer leurs otages. Ce n'était pas leur intérêt non plus de garder une marchandise dont parfois ils ne savaient pas quoi faire. Hein. Et les négociations se passaient par des intermédiaires qui sont en arrière-plan, qui ne sont pas dans ces villages évidemment, qui sont des hommes d'affaires somaliens ou internationaux qui faisaient le lien avec les grandes compagnies. On connaît ces grandes compagnies, la CGM CMA française, Merckx danoise, Sealand américaine, etc., qui sont les maîtres des mers aujourd'hui, des mers transocéaniques, et qui étaient les principales victimes.
Encouragé par les premiers succès et poussé par l'appât d'un gain facile, on changea de registre. Il s'agissait maintenant de prendre d'assaut des bateaux de commerce. Nous partions de plus en plus loin, de plus en plus longtemps, avec des vivres pour plusieurs semaines chargés d'essence à ras-bord. Au large, nous nous laissions dériver au fil de la houle et du courant, en attendant impatiemment nos proies, tapis au fond de nos skiffs, tandis que l'un d'entre nous surveillait la mer. Dès que nous avions repéré notre cible, nous nous précipitions par l'arrière, remontions le sillage et grimpions à l'assaut avec de simples échelles de corde, tirant une rafale de Kalachnikov si le malheureux navire tentait de fuir.
Évidemment, il ne suffit pas qu'il y ait des bateaux qui passent pour qu'il y ait des pirates. Il faut qu'il y ait des besoins pour certains groupes de s'adonner à la piraterie, c'est-à-dire de la pauvreté, de la misère, des troubles. Et c'est ce qui s'est passé en Somalie. Il y avait ce terreau-là de frustration de la jeunesse, parce qu'il ne faut pas oublier les changements technologiques qui font que les jeunes de toutes ces sociétés misérables et condamnées, d'une certaine manière, rêvent d'accès à la société technologique, et ils ont des appareils de téléphonie mobile, ils ont des ordinateurs, ils ont des GPS, et ils aimeraient avoir accès à tout ce qu'ils voient dans ces écrans, hein, et tout ce qui passe au large, évidemment, dans ces gros bateaux porte-containers. Et comme ils peuvent avoir accès à des armes automatiques qui leur sont fournies gentiment par des pays voisins qui ont intérêt à déstabiliser la région, je pense à l'Érythrée en particulier, mais aussi ça peut être l'Éthiopie, ça peut être d'autres groupes, et puis on peut acheter des armes dans toute cette région assez facilement. Alors on en arrive à cette piraterie somalienne qui nous a beaucoup préoccupés au tournant des années 2000 à 2012. Hein. 2005 à 2012, il y a eu une efflorescence comme ça de piraterie qui venait des côtes de la Somalie et qui attaquait alors là des gros navires, hein, des navires qui étaient sans défense et qui transportaient des marchandises extrêmement précieuses, tous ces appareils vidéo, ces lecteurs de CD, etc. Eh bien, c'est des produits qui sont intéressants pour des pirates, évidemment pas pour eux, mais pour les revendre.
Ce matin-là, nous avons capturé un boutre yéménite au large de Garakad. Nous l'avions pris pour un bateau de pêche, de ceux qui mouillent des lignes de plusieurs kilomètres garnies de milliers d'hameçons et qui déciment les bancs. Mais en le fouillant, nous avons découvert qu'il transportait des armes et des munitions à destination de Bosaso. Nous avons donc décidé d'y mener le boutre pour négocier directement la cargaison et en tirer le meilleur profit. Mais quelques heures après avoir doublé le cap Gardafui, en arrivant dans le golfe d'Aden, nous avons aperçu au large un grand voilier blanc comportant plusieurs ponts superposés. Sûrement un navire de croisière faisant route vers Hodeïda, au Yémen, pour embarquer de nouveaux passagers. Le vent soufflait modérément du sud-ouest et la mer était calme, le voilier filant à petite allure toute voile dehors. Malgré ces trois ponts, il n'était pas bien haut sur l'eau, et dans ces conditions, c'était une proie facile.
Le golfe d'Aden est un golfe en entonnoir jusqu'au détroit de Bab el-Mandeb, qui est le détroit, alors là, très peu large, qui fait une trentaine, quarantaine de kilomètres de la côte africaine à la côte yéménite. Alors les bateaux sont obligés de converger dans cet entonnoir pour entrer dans la mer Rouge, avec les récifs coralliens, les requins, les tempêtes, une navigation extrêmement difficile autrefois, et toujours assez périlleuse, parce que finalement, il y a beaucoup d'îlots qui affleurent au large, soit des côtes du Soudan, de l'Érythrée, de l'Égypte, d'un côté, de l'Arabie et du Yémen de l'autre. Donc les navires se mettent un peu à la queue leu-leu pour rejoindre Suez et attendre leur tour de passer dans le canal de Suez. Et évidemment, les bateaux sont un petit peu sans défense parce qu'ils sont préoccupés par le passage, la coordination. Si vous regardez sur un écran radar, vous voyez tous ces bateaux qui viennent vers le même endroit, vers ce détroit de Bab el-Mandeb, la porte des lamentations en arabe, parce que c'est un endroit extrêmement dangereux pour la navigation et pas simplement à cause des pirates, depuis des siècles, voire des millénaires. Alors on a commencé par louer des compagnies privées qu'on mettait sur les bateaux, c'est-à-dire des mercenaires, et ces hommes-là peuvent faire feu sur des pirates qui viennent. Mais ça ne suffisait pas, parce que ça ne dissuadait pas les pirates d'attaquer la nuit, d'attaquer sur ces bateaux gigantesques, parce que faut voir ce que c'est qu'un porte-container, ça fait 200 mètres d'un bout à l'autre, on circule en vélo sur ces bateaux-là. Et puis, parfois, il n'y a pas plus d'une dizaine ou une quinzaine de marins, parce que ça suffit. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu ce développement rapide et de façon concomitante, une prise de conscience des États qu'il fallait s'organiser de façon collective pour mettre un terme à cette piraterie qui devenait dangereuse parce qu'elle bloquait le canal de Suez et elle bloquait l'océan Indien, c'est-à-dire qu'elle mettait en péril le trafic parce que les compagnies se disaient « c'est pas, on arrête, quoi, on peut plus faire passer des marchandises par ces endroits-là ». Alors les pays occidentaux, alors l'Europe a mis en place son propre dispositif, Atalante, avec des marines qui se coordonnaient, des porte-hélicoptères pour surveiller, des avions, pour essayer de vraiment prévoir et prévenir la piraterie avant qu'elle s'exerce. Donc on a un dispositif qui fonctionne encore aujourd'hui et qui est devenu extrêmement dissuasif à partir de 2009, je dirais.
La prise de l'Octant fit la une des journaux du monde entier. C'était un grand yacht à voile d'un blanc immaculé. L'avant effilé semblait faire corps avec l'eau et le ciel. Je n'avais jamais rien vu de tel. Nous étions grisés par le luxe du voilier. Nous étions entrés par effraction dans un monde étranger que nous découvrions comme des gosses. Les négociations commencèrent sans tarder. Je compris bientôt que pour l'armateur, la rançon n'était pas un problème en soi, pourvu qu'on ne touche pas l'équipage et que le navire ne soit pas saccagé. Nous avons donc exigé 2 millions de dollars par liasse de billets de sang. Nous restions marqués par l'affaire des fûts toxiques. Nous avions vu les gosses malades, la bouche en sang, et nous voulions de l'argent pour sauver le village.
Évidemment, ce sont des opérations qui se préparent. C'est pas en voyant passer le bateau au large qu'on saute dans son canot et puis on y va. Donc, c'est des choses qui sont préparées parce qu'elles demandent une logistique importante en termes de connaissance du fonctionnement de ces navires, qui est tout à fait particulier. Il s'agit pas que le navire aille s'écraser sur les rochers avec sa cargaison de 2 millions de tonnes de brut à l'intérieur, par exemple. Et d'autre part, il faut savoir à qui s'adresser pour obtenir la rançon et comment s'attaquer à des compagnies aussi puissantes. Donc il y a évidemment des organisateurs, à la fois sur le plan technique, sur le plan commercial, sur le plan des armements. Bon alors, on n'embarque pas non plus des armements très sophistiqués, parce que avec des lance-roquettes et avec des mitraillettes, on peut déjà faire beaucoup de dégâts, ou en tout cas beaucoup de menaces. Quant à dire que ces gens-là sont des terroristes, on peut se poser la question. Moi, je suis très prudent par rapport à ces qualificatifs. Ces pirates sont des jeunes gens désœuvrés, sans avenir, sans autres ressources, qui sont des marins, appuyés par des circuits commerçants, des réseaux mafieux, si on veut le qualifier comme ça. Mais les mafias, encore, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Hein, là, on ne sait pas forcément de quoi on parle. Ce sont des intermédiaires criminels entre ceux qui payent les rançons et puis ceux qui les reçoivent. Donc voilà, le jugement moral qu'on peut porter là-dessus, il est assez subjectif, parce que je pense que pour eux, il n'y a pas de question morale, dans la mesure où ils ne cherchent pas à tuer des gens, ils ne considèrent pas leur proie comme des ennemis. Ils se considèrent un peu comme un carnivore face à un herbivore, c'est-à-dire le lion n'est pas un criminel parce qu'il mange des zèbres ou des animaux. Voilà, c'est un peu dans l'ordre naturel des choses que de se servir sur ces marchandises qu'on voit passer au loin.
Après le partage, je n'aurai pas trop de 100 000 dollars pour commencer une nouvelle vie. Et ce ne sera pas en Somalie. Je n'ai plus d'amis, pas de famille, aucun point de chute. Je suis de nouveau seul, mais avec de l'argent cette fois. Beaucoup d'argent. Mon idée est de rejoindre Bosaso et de trouver un bateau pour effectuer la traversée jusqu'au Yémen. Nous sommes au début du mois d'avril. Les conditions en mer sont encore favorables, mais bientôt... Le vent soufflera sur le golfe d'Aden et soulèvera une mer trop forte pour les modestes embarcations de pêche qu'utilisent les passeurs, qui pourraient faire naufrage. Une fois parvenu à terre, la partie sera gagnée. Les autorités yéménites accordent le statut de réfugié aux Somaliens qui atteignent les plages. Avec cet argent, je vais pouvoir changer de vie. Je vais pouvoir tout reconstruire. Je n'ai pas d'autre choix. Mon salut passe par la mer.
Quand on parle de piraterie, finalement, on peut se demander s'il n'y aurait pas un parallèle. Il ne faut pas l'exagérer, le pousser à bout, mais un parallèle avec l'activité dans ces pays-là de nos entreprises, de nos États. Donc c'est très facile de les taxer de piraterie sans se poser la question du pourquoi ils en sont réduits à ces extrémités. Et on devrait s'interroger sur notre incapacité ou notre manque de volonté à réguler, nous aussi, la pollution que nous exportons et le pillage des ressources de la planète que nous continuons à opérer dès lors qu'il n'y a pas d'État en face existant. Et là, il y a un ordre économique mondial dont on a parlé depuis des décennies et qui ne se met pas en place, c'est-à-dire que le pillage demeure la règle sous une forme plus ou moins régulée, plus ou moins civilisée dans tous ces pays-là.
Merci à Marc Lavergne, géographe et chercheur au CNRS dans l'équipe Monde Arabe et Méditerranée à l'Université de Tours. Il a collaboré en 2009 au numéro 134 de la revue Hérodote, consacré au pillage et aux pirateries. Merci également à Franz Confiac, qui a prêté sa voix à Osman, pirate somalien, dans des lectures librement adaptées du roman de Laurent Mérère, paru aux éditions Koutoubia en 2009. Les Hommes aux semelles de vent est une émission d'Odémilie Judaïque, préparée par Julie Briand et réalisée par Charlotte Roux et Anne-Laure Chanel. À la prise de son et au mixage, il y avait aujourd'hui Bernard Lamiel et Pierre Mine. Demain, nous continuerons d'interroger l'inégale répartition des richesses et ses conséquences sur les migrations en Afrique avec les déplacés du Darfour. Rendez-vous donc dès midi sur France Culture et d'ici là, belle journée à tous.